Bonjour, bienvenue sur Radio Dialogue. Je reçois aujourd'hui Frédéric Baudin. Frédéric Baudin, bonjour. Nous allons parler avec vous de la relation de l'homme avec la création. Mais j'aimerais d'abord que vous nous parliez un peu de vous, de votre parcours qui est, le moins qu'on puisse dire, pas ordinaire.
Oui, dans le sens où effectivement j'ai cherché dans plusieurs directions à la fois. Alors sans faire de mauvais jeu de mots, d'abord la foi, une rencontre avec Dieu vers l'âge de 18 ans. Qui a vraiment changé toute ma vie et qui a orienté certainement aussi mes recherches ultérieures, plutôt sur le plan universitaire et autres. Et j'ai donc suivi des études à la fois en écologie, en lettres modernes et en théologie. Et c'est peut-être à cela que vous faisiez allusion sur le parcours pas trop ordinaire, un parcours universitaire dans ces matières très différentes finalement, mais qui se rejoignent dans la mesure où j'ai continué à parler précisément de la foi en rapport avec la culture. Et ça a été l'objet non seulement de mes recherches, mais aussi de mon activité professionnelle pour une bonne part tout au long de ces années, donc depuis l'adolescence ou la fin de l'adolescence.
Je crois que c'est pas un handicap, c'est une richesse au contraire d'avoir fait plusieurs orientations. Ça vous donne une relation avec les choses totalement différente. Je suis indiscrète si je vous demande de me parler rapidement de votre rencontre avec Dieu. Je crois que c'est des
Alors,
messages
vous
qu'il faut
pas,
donner.
Vous
oui.
n'êtes pas indiscrète et nos auditeurs aussi ont le droit d'en savoir davantage éventuellement. Simplement, j'étais moi au sortir de l'adolescence en recherche. Je recherchais Dieu, je crois, de tout cœur. Alors je ne nommais pas Dieu, c'était plutôt la vérité ou quelque chose d'absolu. En tout cas, une solution en particulier au problème de la mort qui m'obsédait déjà et depuis tout jeune. Je me disais, ça me paraît absurde de vivre et de mourir. Voilà, je ne voyais pas de sens à tout cela. Et j'ai rencontré au lycée, tout simplement, une jeune fille qui était chrétienne et qui m'a parlé de sa foi. Alors au début, c'est plutôt elle que je cherchais et très vite, j'ai compris qu'en fait, c'est Dieu là que j'étais en train de trouver. Et lorsqu'elle m'a exprimé sa foi, je l'ai accompagnée un jour à l'église et là, ça a été pour moi bouleversant. J'ai reçu comme en plein cœur, c'est le cas de le dire, la prédication du pasteur là, qui s'exprimait dans cette église. C'était donc dans une église protestante. Moi-même, je ne suis pas d'arrière-plan protestant, mais je n'avais pas du tout d'a priori. Et en tout cas, ce message-là m'a été vraiment droit au cœur. Tout simple, je dirais, de se rappeler de l'évangile, d'un Dieu personnel qui nous aime, qui est comme un père, qui a donné son fils pour que nous soyons réconciliés avec lui. Tout cela m'a vraiment bouleversé, c'est comme si je l'entendais pour la première fois. Et ça a eu aussi beaucoup de conséquences sur ma vie, même tout jeune, à l'âge de 18 ans, comme je le disais. Et j'ai pu reprendre une toute autre orientation dans tous les domaines, hein, que ce soit dans la relation avec mes parents, ma famille, avec mes amis, la mode de vie.
Voilà, ça a bouleversé complètement votre vie. Et c'est un bouleversement qu'on a envie.
Oui, mais je crois qu'il
y a beaucoup qui aimeraient vivre.
De chacun, il faut s'approcher de Dieu. Hein.
Oui, mais il faut qu'il y ait une réponse aussi à cette approche.
Oui, mais je pense qu'un bon, le Christ lui-même dit, hein, cherchez et vous trouverez. Et je pense que celui qui cherche finit quand même par trouver. Il y a une promesse de Dieu et c'est Dieu qui la tient, cette promesse, c'est pas moi. Donc il y a moyen de s'approcher de Dieu et de le rencontrer, de le connaître, comme justement ce Dieu personnel, ce Dieu Père que l'on appelle aussi notre Père. Hein. Les premiers mots de cette prière ne sont pas innocents.
Prière
c'est
magnifique.
Une relation d'enfant avec un père.
Alors, on va revenir à l'écologie. Et écoutez, je ne peux pas m'empêcher de vous poser, de vous lire cette phrase. Au début de la Bible, la phrase de la Genèse, prise dans la Genèse, « Dominez la terre et soumettez-la ». Alors ça, c'est tout à fait d'actualité maintenant, puisque effectivement, on soumet la terre au point de la détruire. Mais la phrase n'est pas complète, alors vous la complétez?
Alors la phrase n'est pas complète, et surtout il y a plusieurs verbes forts dans la Genèse, et pas seulement ces deux verbes qu'en général on cite très facilement, d'abord multiplier et remplir la terre, donc de l'ordre en quelque sorte de peupler hein, la terre, et puis effectivement dominer et soumettre, alors cette terre et tout ce qu'elle renferme, on va en reparler. Mais il y a un troisième couple de verbes qui me paraît important, qui est cultiver et garder. Alors, à l'origine, le jardin, hein, ce fameux jardin d'Éden, mais par extension, bien évidemment, la terre dans son ensemble. Et il faut prendre les trois ensemble et ne pas tronquer, effectivement, le texte biblique, alors que ce soit le verset en question, ou l'ensemble de ces textes, au fond, qui sont les trois premiers chapitres de la Genèse, donc du premier livre de la Bible.
Mais moi, je dois dire que je connaissais que ces deux verbes, dominer la terre et soumettre là. Et en préparant l'émission, je suis allée quand même rechercher dans la Genèse cette phrase. Et c'est là que je me suis aperçue qu'elle était tronquée d'une façon quand même assez déplaisante.
Oui, et même le sens des termes
tout à fait.
Est important. Alors, si vous voulez, on peut reprendre les choses un petit peu dans l'ordre, parce que c'est quand même bien à partir du multiplier et remplir que se pose déjà un certain nombre de problèmes, puisque si on fait tout simplement référence à la croissance démographique. Et en particulier à l'explosion de cette croissance à partir du 19e, 20e siècle. Hein, juste quelques chiffres pour se souvenir un petit peu de la réalité. Au début du 19e siècle, il y avait 1 milliard d'individus environ, hein, sur notre planète. C'était à l'époque où Malthus s'inquiétait des écarts de croissance entre la croissance justement de la population, qu'on commençait à sentir très très nettement, et puis la croissance des ressources qu'il estimait être insuffisante pour une population trop nombreuse. Vous savez, ça a donné aussi lieu à beaucoup, beaucoup de discussions. 2 milliards d'individus en 1930, et on passe brutalement de 1930 à 1975 de 2 à 4 milliards d'habitants. Et c'est cette période-là qui est cruciale dans notre réflexion finalement sur l'environnement. Et puis nous sommes 6 milliards en l'an 2000, et aujourd'hui, vous le
6
savez,
milliards 3.
6 milliards, oui, même un petit
même
peu plus,
peu plus
on
oui.
approche très, très doucement des 7 milliards.
Je ne sais pas si vous connaissez ce site internet qui s'appelle La Grande Horloge, où vous avez le nombre d'habitants qui tournent en permanence.
Ah, ouais.
Je l'ai regardé hier soir. En gros,
ouais.
Il y a 2 naissances par seconde
oui.
dans le monde.
Alors j'avais vu ça, moi, au musée.
C'est vertigineux.
Le musée de l'homme
à
Paris.
Vous avez un site à Paris.
Aussi,
voilà. Vous avez un site internet qui vous donne tout ça.
Très bien. Alors voilà, une croissance phénoménale, hein, soudaine, on peut dire, de la population mondiale, avec effectivement, il fallait dans l'urgence répondre aux besoins, hein, nourrir cette population, faire en sorte qu'elle puisse habiter dans des conditions acceptables, développer pour cela l'agriculture, bien évidemment, et l'industrie. Alors peut-être on est allé trop loin, on critique beaucoup, hein, cette période des années 60, 70, 80.
C'est là que tout a démarré. Hein.
C'est là que tout a démarré, mais d'un autre côté, dans l'urgence, il arrive qu'on fasse des bêtises, mais le défi était quand même immense. Et je trouve qu'on a un petit peu beau jeu de critiquer avec le recul les erreurs que nos aînés ont pu faire. Et certes, ils ont commis des erreurs. Il est bien d'en prendre conscience, il est bien de corriger le tir. J'irai pas jusqu'à les accuser. Parfois, je lis des propos très véhéments, très accusateurs sur nos aînés. Je resterai prudent dans ce domaine. Mais c'est vrai.
Vous croyez pas qu'on recommence la même chose? C'est-à-dire que là, il y a des problèmes très très urgents qui se posent, et on va de la même façon les traiter dans l'urgence.
Oui, alors c'est vrai, en partie. On a tout de même pris conscience d'un certain nombre de choses. Bon, la notion qu'on appelle aujourd'hui de développement durable, elle est quand même née de ce constat. C'est-à-dire que pour nourrir cette population sans cesse croissante, eh bien, il fallait trouver des solutions. Des solutions agricoles, des solutions industrielles, des solutions urbaines, parce que nous vivons de plus en plus dans des villes, et même dans de très grandes villes. C'est le cas à Marseille, hein, par exemple. Solutions qui nuisent le moins possible, nous dit-on, à l'environnement, à notre environnement naturel, tout en permettant de nourrir et d'abriter au mieux le plus grand nombre d'individus sur notre planète, et tout cela, ajoute-t-on, sans freiner alors le progrès, quel qu'il soit, hein, scientifique, technologique, économique, social, enfin dans toutes ses composantes. Et on ajoute, surtout depuis ce fameux rapport de Mme Brundtland en 1987, Mme Brundtland était alors Premier ministre de Norvège, et elle était aussi la présidente d'une commission donc, qui s'inquiétait des questions d'environnement liées à la croissance de la population, et elle disait qu'il fallait aussi se préoccuper des générations futures. Et c'est de là qu'est née la notion tout entière, hein, de développement d'une part et durable d'autre part. Alors, on peut tout de suite s'interroger, hein, sur le durable. Durable pour combien de temps? C'est pas moi qui ai posé le premier cette question. Je l'ai de Jean-Marc Jancovici, qui est un des conseillers auprès du gouvernement. Jean-Marc Jancovici a posé cette question très pertinente. Hein, durable pour combien de temps? Est-ce qu'on pense en décennies, en siècles ou en millénaires? Et vous voyez que selon l'échelle que l'on adopte, eh bien, on ne va pas réfléchir de la même manière et on ne va pas apporter les mêmes solutions. Alors, il y a un véritable effort à faire dans ce sens. souvent contredit malheureusement par la réalité, et en particulier par la réalité économique. Et j'entends là pas seulement la crise que nous traversons, mais les appétits démesurés des hommes et des femmes qui veulent s'enrichir plus qu'il ne faut, et beaucoup plus vite qu'il ne faut. Et c'est certainement là, à mon sens, que le bât blesse.
Je crois qu'il y a quand même une erreur sur le développement durable. J'aurais préféré la traduction du terme anglais, sustainable, soutenable. Ce que la Terre peut soutenir. Durable, absolument. Ça ne veut rien dire. Puis on l'a mis à toutes les sauces, c'est ridicule.
On l'a mis à toutes les sauces.
Non, alors, si on ne fait pas une conférence avec durable dedans, ça ne vaut rien. Alors,
c'est ce que la Terre peut nous apporter, supporter. Dans des conditions acceptables et sans forcer la nature. On reviendra peut-être sur la question des limites, justement, parce que c'est un point extrêmement important.
C'est-à-dire tout à fait.
Aujourd'hui, on a énormément forcé les limites. Mais je reviens à votre question sur le dominer et soumettre.
Oui, on continue la phrase.
De le mettre en perspective à partir de ce premier couple de verbes. Alors, depuis deux siècles environ, enfin, disons depuis la révolution industrielle, on assiste à une sorte d'exploitation démesurée de toutes les ressources naturelles, une exploitation presque sans bornes, sans limites, justement, des ressources naturelles. Et tout cela a des conséquences aujourd'hui tragiques. Nous avons finalement commencé à souffrir des conséquences de la pollution dès le 19e siècle, si je pense aux fumées industrielles qui ont tué beaucoup de gens.
D'ailleurs, Londres était beaucoup plus polluée à cette époque que maintenant. Hein.
Et on oublie toujours qu'il y avait des milliers de décès dus aux fumées de charbon, puisque c'était essentiellement la combustion du charbon. Ça a tué beaucoup de gens en Angleterre dès le 19e siècle. Et on a commencé à prendre conscience à ce moment-là du problème réel, et ça a donné lieu d'ailleurs au tout premier mouvement, c'est beaucoup dire, de protection de l'environnement d'une manière ou d'une autre. Alors, voilà, et même dans la littérature, on le voit, ce fameux verbe dominer tiré de la Genèse, dominer et soumettre, on le voit par exemple dans la littérature anglaise, chez un Dickens, chez d'autres auteurs, et en France aussi, où on trouve normal, surtout au siècle du positivisme triomphant, je pense au fameux Auguste Comte et à d'autres, finalement, allons-y. Que ce soit dans des systèmes chrétiens ou non chrétiens, on se sentait presque tout puissant et capable de dominer la Terre de façon extrêmement intensive, avec tous les problèmes que ça a pu poser.
On a complètement oublié que la Terre nous donnait tout. Toute notre vie est passée sur... On n'aurait plus de terre, on n'aurait plus de vie, c'est pas possible. L'eau, les végétaux, les animaux, le pétrole, le gaz, tout vient de la terre. Alors, moi, j'aimerais qu'on revienne un peu à la pensée chrétienne sur ces deux...
Alors précisément, et voilà. Je vais aussi parler très brièvement du troisième couple de verbes, et puis on va essayer de lier un petit peu les verbes. Alors, cultiver et garder. Et bien évidemment, dominer et soumettre ne va pas sans cultiver et garder. Et nous sommes appelés à cultiver et garder ce jardin dans lequel Dieu nous place depuis le commencement et jusqu'à nos jours. Et je pense qu'il faut faire le lien entre cette culture, alors j'allais dire très terre à terre, sans faire de mauvais jeu de mots, il faut cultiver la terre pour se nourrir, vous venez de le dire, et tout vient de notre terre, que ce soit ce que nous buvons, mangeons, effectivement, même si nous transformons les produits issus de la terre.
Avec de l'énergie qui vient de la terre.
Et malheureusement, nous consommons l'énergie et nous en consommons davantage que nous sommes capables finalement d'une certaine manière d'en produire et surtout qui serait disons viable pour l'ensemble de la population mondiale. Et c'est là le vrai problème, le déséquilibre entre notre consommation d'énergie et l'énergie disponible et dont certains malheureusement ne profitent pas. Mais enfin c'est un petit peu un autre sujet pour l'instant. On va revenir à notre thème. Garder, cultiver justement, qui ont aussi une connotation, une dimension spirituelle et religieuse. Et c'est là où peut-être nous avons fait fausse route d'une certaine manière. Cultiver ou garder, si je prends ces deux verbes dans le texte hébraïque, qui est le texte donc de l'Ancien Testament, où ils apparaissent à plusieurs reprises, eh bien il y a un lien, si vous voulez, entre cette tâche de cultiver la terre, mais aussi de servir Dieu. C'est le même verbe, rendre un culte à Dieu, travailler pour Dieu, on pourrait le traduire aussi comme ça. C'est le même verbe. Il y a donc une dimension religieuse. Même chose pour le verbe garder. Le verbe garder, eh bien, il est utilisé par exemple pour garder son âme. C'est bien une dimension religieuse, spirituelle en tout cas. C'est aussi vrai pour garder l'alliance de Dieu. Voilà une notion alors, parfaitement religieuse, hein, garder l'alliance de Dieu, c'est le même verbe. Alors je ne veux pas jouer trop sur les mots, parce que vous savez, on peut faire dire parfois un petit peu tout et n'importe quoi aux mots, mais je pense que ça a tout de même son sens. C'est plus qu'un jeu de mots, si vous voulez. Hein, nous sommes appelés à exercer là à la fois notre liberté de créature, mais aussi notre responsabilité, et l'un ne va pas sans l'autre.
Il y a une opposition très forte entre ces deux groupes de mots, hein. Dominer, soumettez, cultiver, garder, c'est curieux.
Alors je vais revenir aussi sur dominer et soumettre. Lorsque l'écrivain biblique emploie le terme de dominer, ce n'est pas pour dominer de façon malsaine, tyrannique. Hein, d'ailleurs, l'une des images qui est utilisée pour la domination du roi sur ces sujets, c'est celle du berger envers son troupeau. Et c'est plutôt le verbe qu'il faudrait employer, c'est prendre soin finalement, hein, plutôt que le verbe dominer. On pourrait très bien, sans trahir le texte biblique, dire tu prendras soin de cette terre, tu la domineras en tant que celui qui a un mandat à exercer
c'est
à l'égard
vrai.
De cette création.
C'est vrai, c'est un autre éclairage que vous donnez là sur cette.
Alors c'est tout autre chose.
Tout à fait.
On a un très beau texte dans les psaumes, le psaume 8, où le psalmiste dit tu as fait l'homme de peu inférieur à un dieu, tu l'as couronné de gloire et de magnificence, tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains, tu as tout mis sous ses pieds, moutons, chèvres, bœufs, bêtes sauvages, oiseaux du ciel, poissons de la mer. Et là, on a une évocation vraiment du livre de la Genèse. Et le verbe qui est utilisé pour cette domination, c'est la racine, si vous voulez, qui a donné le verbe gouverner, comme ce roi, justement, qui gouverne pour le bien de ses sujets, pas comme un tyran. Pas comme un tyran. Et j'en voudrais pour preuve l'autre verbe, le fameux soumettre. Alors lui, ce verbe-là a donné lieu à beaucoup de contresens, parfois les plus douteux, parfois aussi les plus destructeurs pour le sujet là, dont on se préoccupe aujourd'hui, donc de la nature. Alors s'il signifie en effet soumettre, c'est-à-dire assujettir, hein, même asservir, même encore un petit peu plus, on peut aller un peu plus loin dans la traduction de ce verbe kabash hein, en hébreu, c'est vraiment fouler aux pieds. Hein, dans le sens d'une soumission radicale, si vous voulez. Mais au fond, il peut être compris dans le sens de prendre possession, et c'est ce que suggèrent un certain nombre d'autres termes. D'ailleurs, dans le grec de la Bible traduite en grec de la Septante, hein, on retrouve cette idée de devenir maître. Et puis alors, plus intéressant, dans la littérature du Proche-Orient ancien. Par exemple, sur la stèle de Thoutmès III, alors c'est un de ces souverains d'Égypte de la 18e dynastie, hein, aux environs de 1500-1400 avant Jésus-Christ, donc à Karnak. On le trouve aussi sur une lettre de Sargon II, alors lui qui était le roi d'Assyrie aux alentours de 720-700 avant Jésus-Christ. Eh bien, l'un comme l'autre utilise la même racine, vous savez que ces langues sémitiques ont des racines communes, et le souverain écrit, dans l'un comme dans l'autre cas, à l'un de ses gouverneurs, pour lui donner l'autorisation de fouler aux pieds, c'est la même racine hein, qui est utilisée, son territoire, afin de l'administrer en son nom. C'est-à-dire que dans le contexte, si vous voulez, de la Genèse, l'homme et la femme sont appelés à bien gérer, à bien administrer la création, et j'ajouterai avec l'intelligence, avec la maîtrise que Dieu leur accorde. C'est donc un tout autre éclairage que cette soumission sans frein, cette domination excessive de la nature. On a là une toute autre approche qui est celle plutôt du bon gérant, du bon gestionnaire de ce qui lui est confié.
Oui.
Et c'est une tout autre mission, si vous voulez.
Tout à fait, je trouve que c'est très 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 intéressant ce que vous venez de nous apprendre, auquel on a... Bon, j'avais pris les mots tels qu'ils étaient, quoi. Et c'est ça le gros problème, je crois.
Hein, oui,
parce qu'ils ont prononcé dans un contexte, à une époque qui n'est plus la nôtre, et donc qui n'ont plus le même sens.
Voilà, il faut les mettre en relation les uns avec les autres. Et sur l'ensemble du texte biblique, qui nous donne des éclairages un petit peu différents et complémentaires.
Et moi, je voulais vous demander aussi, que font les églises actuellement? Quel est leur regard sur ce qui se passe, sur les dangers qui menacent l'environnement? Parce que dans l'Église catholique, on a quand même eu des gens comme Saint François d'Assise, qui était passionné de la nature, des animaux, qui a fait une très belle prière. On en a parlé tout à l'heure. Bon, il faudrait qu'on discute beaucoup là-dessus. Il y a curieusement le pape Benoît XVI qui a créé l'événement en disant qu'il allait mettre le Vatican en autosuffisance énergétique, en faisant mettre des capteurs partout. Bon, il y a un mouvement peut-être qui se crée parmi les églises et ce serait le moment qu'elles se manifestent avant qu'il soit trop tard. On est quand même un milliard, combien de chrétiens, 1,9 milliard de chrétiens.
Les statistiques disent à peu près 2 milliards. Oui,
voilà, c'est 2 milliards commencent à dire quelque chose, ça fait quand même un tiers de l'humanité, ça.
Oui. Non, alors, pour ce qui est des églises, il y a tout de même une prise de conscience, mais je dirais un peu à retardement, hélas.
Beaucoup.
Alors, pour resituer un petit peu le contexte, on pourrait dire le raccrocher au mouvement des grandes conférences internationales sur l'environnement. Il y a d'abord eu, vous vous en souvenez, en 1972, c'était le sommet Une seule terre à Stockholm. Mmh. On a créé à ce moment-là le programme des Nations Unies pour l'environnement, donc il y a eu toute une prise de conscience à l'échelle mondiale du problème de la pollution, des solutions qu'il fallait apporter. Ça a été suivi de deux grandes conférences, celle de Rio de Janeiro en 1992, celle de Johannesburg en 2002, et on a pris un certain nombre de décisions qui ont été plus ou moins suivies. Vous savez que les bilans de ces grandes rencontres
sont parfois un peu mitigés. On avait encore le temps à cette époque de faire des phrases, des colloques. Maintenant, on n'a plus le temps. Voilà. C'est le gros problème.
Enfin, à partir de 92, il y a comme tout de même, il y a une prise de conscience. Il y avait tout de même 178 pays représentés à Rio de Janeiro. C'est assez considérable. Il y a donc une prise de conscience, on pourrait dire, d'ordre politique à l'échelle de la planète. C'est quand même 92, à partir de 92, qu'on met en place les fameux agendas 21, donc les programmes de mise en œuvre du développement durable pour le 21e siècle, avec tout de même des objectifs assez concrets, de lutte contre la pauvreté, contre l'exclusion sociale, la production de biens et de services durables, etc., la protection de l'environnement, les accords sur la désertification, sur l'aide au développement. Enfin, Rio de Janeiro a quand même lancé un certain nombre. Bien sûr, les bilans sont mitigés, c'est pas parfait, mais bon, je crois qu'il faut rester quand même sur une ligne un petit peu positive d'une prise de conscience et d'une première mise en pratique, même si elle est limitée et insuffisante. 2002, c'est tout de même la signature du protocole de Kyoto sur les changements climatiques, même si malheureusement certaines exceptions notables, voilà, et qui en ont certainement affaibli la portée, à la fois symbolique et pratique. Alors, les églises, dans tout ce mouvement, puisque ce n'est pas mon propos là, de développer la question des grandes rencontres internationales, mais les églises, pour leur part, à partir de 1983, organisent elles aussi des rassemblements internationaux. Alors, c'est à Vancouver pour le premier de ces rassemblements, sur le thème « Justice, paix et sauvegarde de la création ». C'était sous l'impulsion d'un physicien allemand, von Weizsäcker. Et ce mouvement œcuménique s'est développé ensuite. Ils se sont de nouveau rencontrés à Bâle, en Suisse, là, donc en 1989. Et puis il y a eu la conférence des églises européennes qui a suivi dans ce sens, là, donc à l'échelle européenne, puis à Graz en Autriche. C'était à Sibiu en Roumanie en 2008. Il y a eu des rencontres aussi du réseau écologique chrétien européen. J'ai pu participer d'ailleurs à l'une de ces rencontres du réseau écologique chrétien européen qui est né en 1989. Alors, il y a une progression qui va dans ce sens. Le réseau écologique chrétien est connu pour, adresser des appels aux différentes églises, de toutes les dénominations d'ailleurs, pour organiser un temps de la création. C'est un temps de la création qui va du 1er septembre au 2e dimanche d'octobre, et on invite là les chrétiens à organiser au moins une cérémonie, un culte, un service, une messe sur le thème de la création, avec une liturgie appropriée, avec une réflexion, des lectures bibliques éventuellement, etc. Il y a toutes sortes de dossiers très bien préparés qui peuvent servir pour animer ce temps de la création dans les églises. Dans d'autres milieux, dans les milieux protestants et dans ces milieux dits évangéliques, j'aimerais citer, parce que finalement on voit toujours les évangéliques un petit peu comme la dernière roue de la charrette, mais il y a des gens qui ont écrit à partir de 1970 sur cette question et qui n'étaient pas tellement écoutés. Je pense à un Francis Schaeffer, un penseur philosophe calviniste qui a écrit « La pollution et la mort de l'homme ». C'était en 1970 déjà un plaidoyer très, très vigoureux.
C'est une époque où effectivement il n'y avait pas beaucoup d'engagement de ce côté.
Je pense aussi au comité de Lausanne à partir de 1974 et qui réfléchit bien sûr à l'évangélisation puisque c'était le principal thème de cette rencontre, mais aussi une évangélisation qui touche l'ensemble des domaines de l'homme et de sa vie en société, dont l'environnement. Donc il y a déjà toute une amorce là de réflexion. Et puis je pense surtout à quelqu'un avec lequel j'ai pu cheminer et je chemine encore d'une certaine manière, c'est le pasteur anglican, anglais et anglican, Peter Harris, qui a créé, lui, en 1983, l'association A Rocha. Alors, A Rocha signifie le rocher, disons-le tout de suite. Ça vient du portugais, tout simplement, parce que cet homme courageux, en 1983, est allé avec sa famille s'installer au sud du Portugal, dans l'Algarve, et près d'un estuaire de l'Alvor, qui était menacé, comme beaucoup de ces zones humides, très riches sur le plan biologique, très intéressantes, menacées soit par la construction d'un aérodrome, soit d'un golf, soit d'une zone touristique, des immeubles, etc. Et il a trouvé qu'il fallait réagir et il a monté là un centre qui est à la fois un centre de recherche scientifique. Il a invité des scientifiques chrétiens à se rendre dans ce centre et à travailler sur le terrain, à étudier la faune, la flore, les interactions, les différentes possibilités qu'il y avait là de protéger cet environnement avec donc un cadre très pratique. Et puis centre d'accueil également pour accueillir bien des classes, pour accueillir des élèves du primaire, du secondaire et puis des visiteurs de toutes sortes pour les sensibiliser à la question de la protection de l'environnement avec une dimension encore une fois très pratique. Toutes les études sur le terrain permettaient de nourrir en quelque sorte la réflexion et les visites de ces écoles. Et cette association est présente aujourd'hui dans une vingtaine de pays dans le monde, dans plusieurs pays aussi du sud, comme le Kenya ou le Ghana ou l'Inde. Et c'est très intéressant de suivre l'évolution de cette petite association chrétienne qui veut protéger l'environnement dans une perspective résolument biblique et chrétienne.
Elle est restée localisée au Portugal ou bien il y a des antennes?
Il y a toujours un centre au Portugal, mais comme je le disais à l'instant, il y a une vingtaine maintenant d'associations dans le monde, dont une en France.
Ah, oui.
Le centre à Rocha en France est près d'Arles et tout le travail se fait sur la vallée des Baux-de-Provence. Il y a tout un travail de recherche. D'ailleurs, l'association à Rocha a piloté toute la concertation entre les différents acteurs de cette vallée pour qu'ils parlent ensemble, alors que ce soit les chasseurs, les pêcheurs, les agriculteurs, les promeneurs, etc., pour voir quelle est, de façon concertée, la meilleure manière de protéger l'environnement et cette belle vallée, par exemple, des Baux-de-Provence. Mais il y a bien d'autres coins en France qu'il faut protéger. Mais voilà, il faut bien être à un endroit.
C'est un travail, c'est à temps plein, pour protéger l'environnement, parce que de tous les côtés, il y a des agressions, des parkings, des rocades.
Absolument. Mais voilà, une manière pratique d'œuvrer. À Rocha se rend beaucoup aussi dans les églises pour essayer de sensibiliser les chrétiens, puisque c'est tout de même le terrain, si je puis dire, sans faire encore une fois de mauvais jeu de mots, naturel de l'association chrétienne.
Puis, les chrétiens pensent quand même que notre vie, c'est la création de Dieu et on est en train de saboter, de détruire la création de Dieu.
Absolument.
Donc ça devrait être une motivation extraordinaire pour tous les chrétiens du monde.
Oui, et tout à fait. Et je pense que, je le dis souvent comme une phrase un peu de conclusion d'ailleurs, prendre soin de la création, de l'environnement, de ce que Dieu a créé dans le temps présent, c'est aussi une façon d'aimer Dieu et notre semblable. Et je la laisse comme une phrase à méditer, si vous voulez. Prendre soin de la création, c'est une façon d'aimer Dieu et notre prochain. Et il y a beaucoup à non seulement réfléchir à partir de là, mais aussi pour agir dans ce sens.
Je lance une question, mais il est un peu tard, il nous reste 2 minutes. Est-ce que ça serait le dessein de Dieu?
Le dessein de Dieu
de détruire la planète.
Ah, de détruire, non, certainement pas. Moi, je crois beaucoup. Alors justement, en ces temps où des groupes répandent la mort, soi-disant au nom de Dieu, il faut redire, et le redire avec force, que Dieu est un Dieu de vie. Dieu se manifeste par la vie. C'est le Dieu qui nous envoie. Alors, il y a une belle métaphore dans la Bible qui tombe bien pour notre réflexion, c'est celle du fruit. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la paix. C'est la joie, c'est la patience. Et dans ce fruit, il y a la vie. Il y a une semence, comme dans tout fruit, il y a une semence. Et bien, cette semence de vie, elle se trouve vraiment dans le fruit que Dieu peut produire dans nos vies. Et encore une fois, pour répandre la vie. Alors, ces fruits-là, on peut les répandre dans les foules, sans problème. On peut faire exploser des grenades de vie, pour prendre l'image du fruit. La grenade, c'est aussi un fruit. Et le répandre dans ce sens. Je crois que le fruit de la vie avec Dieu, et bien, c'est un fruit de vie.
Frédéric, c'est une très belle conclusion que j'aime beaucoup. Il me reste à vous remercier d'être venu passer cette demi-heure avec vous. Merci à la régie, Frédéric, et à bientôt sur Radio Dialogue.
Merci, à bientôt.